Il est 19h. Lucas, 13 ans, moqué, insulté à cause de son homosexualité, s'était suicidé dans les Vosges. 4 de ses camarades de classe seront jugés pour harcèlement.
Des mairies fermées pour soutenir les grévistes mardi prochain, à Hidalgo, à Paris, mais pas seulement. On verra ce qu'en pensent les administrés. Dans ce journal, Sciences Po interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle ChatGPT à ses étudiants. Bernard Laporte, désavoué, démissionne. Les Bleus du handball en demi-finale du Mondial contre la Suède. Et puis, Louis de Funès est mort il y a 40 ans, mais son aura plane toujours dans le village de Loire-Atlantique où il a passé ses dernières années.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, gris sur les trois quarts de la France demain, toujours avec des températures froides, entre 1 à Guéret et 9 à Montpellier l'après-midi.
A tout à l'heure pour la météo complète. Il avait mis fin à ses jours à 13 ans, le 7 janvier dernier. L'affaire du suicide du jeune Lucas a suscité une très forte émotion.
Oui, l'adolescent scolarisé à Golbey dans les Vosges subissait des moqueries en raison de son homosexualité. On apprend ce soir, Mélina Fachin, que plusieurs de ses camarades de classe vont être jugés.
Oui, 4 adolescents de 13 ans, comme Lucas, 2 filles et 2 garçons scolarisés dans le même collège que lui. On l'apprend par un communiqué du procureur de la République d'Épinal. Ces 4 jeunes ont été interpellés dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte après le suicide de Lucas. Placés en garde à vue ces derniers jours, ils ont admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades. Et ce, entre les mois de septembre dernier et janvier, jusqu'au suicide de Lucas. Donc, à l'issue de leur garde à vue, 4 adolescents ont été convoqués devant le tribunal pour enfants d'Épinal. Ils y seront jugés à une date encore inconnue pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de la victime. L'enquête a effectivement établi que toutes ces moqueries ont pu pousser Lucas à passer à l'acte. On rappelle que pour l'instant, les 4 jeunes sont présumés innocents. Par ailleurs, une enquête contre X a été ouverte pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. Des adultes, des professeurs, d'autres élèves auraient-ils pu intervenir pour éviter le pire? Cette question est donc encore en suspens et les investigations se poursuivent.
Mélina Fachin, en direct de Strasbourg pour Europe 1. Et puis, un féminicide emblématique jugé par la cour d'assises en appel en Corse. La peine maximale a été requise contre l'homme de 46 ans accusé d'avoir tué son ex-compagne et mère de ses enfants, Julie Douib, en 2019. L'avocate générale a requis la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Le verdict est attendu dans la soirée. Fermer sa mairie ou pas le mardi 31 janvier, telle est la question. Tout est parti de l'appel lancé par le numéro 1 du Parti communiste, Fabien Roussel, qui demandait aux mairies de laisser leurs portes closes en solidarité avec le mouvement contre la réforme des retraites. Hier, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle suivait cet appel. D'autres en feront autant, à Montreuil notamment. Alors comment est-ce que les habitants et agents de mairie perçoivent cette décision, Geoffrey Branger?
Eh bien, dans les mairies concernées, la grande majorité des employés municipaux avec qui l'on a pu échanger soutient cette décision. Ils ont pourtant bien conscience que leurs administrés seront pénalisés mardi et pourtant, ils approuvent la décision de leur maire à l'image de Tizeri qui travaille à l'état civil de la mairie de Montreuil.
Bonne initiative de la part du maire. Je pense que ça peut être une bonne chose. Ça peut inciter un peu tous les collègues qui n'auraient pas forcément les moyens de faire grève, de se permettre d'aller manifester, travailler jusqu'à 64 ans, oui, encore, ça va encore augmenter. Je pense que c'est une bonne chose qu'on se mobilise pour nos droits. Oui.
Si pour ces agents des services publics, c'est bien normal, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Stéphane habite Paris, il trouve cette décision plutôt injustifiée.
Je suis plutôt opposé à ce type de démarche. C'est comme tous les grands acteurs publics. La RATP sera en grève parce que ses agents seront en grève, mais la RATP continue par exemple à produire du transport. C'est le même principe pour une mairie. Si c'est les salariés qui font grève, c'est leur droit. C'est vrai que ça paraît un peu étonnant que ce soit les maires qui décident de fermer leur mairie.
Pour Antoine, la mairie de Paris par exemple sort totalement de son rôle.
Moi je considère que le rôle de la mairie est peut-être plutôt de rester neutre plutôt que de prendre parti sur un sujet comme la grève. Mais ouais, je crois que la mairie pourrait peut-être plutôt rester en retrait sur cette question-là.
Aujourd'hui, les administrés concernés se posent surtout la question de savoir si les services de base seront tout de même assurés mardi dans les mairies.
Geoffrey Branger, Villejuif en région parisienne, Fâche-Thumesnil dans le Nord ou encore Saint-Pierre-de-Rillac en Gironde. D'autres comptent aussi fermer leur mairie, ce qui, pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, pose un problème de neutralité. Les maires ne sont pas salariés, ils n'ont pas le droit de faire grève, mais est-ce qu'ils peuvent fermer leur mairie, Arthur Delaborde?
Eh bien oui, mais c'est clairement une décision politique. En théorie, un service minimum doit tout de même être assuré, notamment pour l'état civil ou la célébration de mariage. Il s'agit de respecter ce qu'on appelle la continuité du service public. Mais en réalité, si le nombre de grévistes est trop important, le service minimum est impossible à mettre en place. Le préfet a bien la possibilité de réquisitionner certains agents, mais à des conditions très strictes qui ne seront a priori pas remplies mardi, car les services des mairies concernées ne sont pas considérés comme vitaux.
Alors ça veut dire que des agents pourront manifester tout en étant payé, Arthur.
Oui, d'ailleurs, par le passé, des municipalités ont déjà été sanctionnées pour avoir publiquement soutenu des grévistes, mais il faut alors prouver qu'un soutien financier a été apporté. En l'espèce, les mairies seront fermées, donc tous les agents seront payés, y compris les grévistes, car ceux-ci, n'ayant pas l'obligation de déposer un préavis, ils seront tout simplement indétectables. Notons enfin que dans certains cas, comme à Paris, il est prévu que des banderoles avec le message « Mairie solidaire avec le mouvement social » soient affichées sur le bâtiment de l'hôtel de ville. Si un recours était déposé, on peut supposer qu'un juge puisse considérer qu'il s'agit d'une atteinte à la neutralité du service public et interdire de telles banderoles.
Arthur Delaborde.
Toujours à propos de la journée d'action de mardi contre la réforme des retraites, la CGT Énergie mène son propre mouvement en amont.
Oui, avec ce qu'on appelle des actions Robin des Bois, vous savez, prendre aux riches pour donner aux pauvres. Alors là, l'idée, c'est par exemple d'accorder des tarifs réduits à des commerçants, Aurélien Fleureau.
Oui, ou encore à des écoles, des hôpitaux et des piscines municipales. Ces établissements se voient d'un coup placés en gratuité d'électricité ou de gaz. Des actions revendiquées par la CGT Mines Énergie dans la lutte contre la réforme des retraites. Cela s'est fait hier de manière coordonnée sur tout le territoire, explique Fabrice Coudour, son secrétaire général.
C'est le début des interventions des Robin des Bois de l'énergie et ça va se poursuivre dans les jours à venir. Ça va prendre de l'ampleur. La lutte qu'on mène, c'est une lutte pour l'intérêt général. Il faut qu'on se batte tous ensemble et tous ensemble, on gagnera le retrait cette réforme.
Donc des baisses de tarifs ciblées pour les boulangers également et même des rétablissements d'usagers dont le contrat avait été suspendu. Pas de coupures ciblées envers des élus de la majorité pour l'instant, précise la CGT. Enedis, qui est en charge de l'alimentation en électricité sur 95% du pays, nous explique respecter le droit de grève mais condamner fermement tout acte de malveillance sur le réseau public et se prépare à rapidement intervenir en cas de coupure et à déposer plainte systématiquement.
Aurélien Fleureau.
Aujourd'hui, le vendredi thématique d'Europe 1 est consacré à l'intelligence artificielle et à tous les changements qu'elle va donc entraîner dans nos vies. Parlons justement du fameux logiciel ChatGPT.
Oui, il est capable en quelques minutes de créer un texte, une rédaction, un article, un poème, une chanson ou encore un devoir de maths, de français, d'économie ou de ce que vous voulez. Ça inquiète évidemment les enseignants. Sciences Po est le premier établissement d'enseignement supérieur français à interdire ChatGPT à ses élèves, Simon Bourtembourg.
Oui, pas de cas de triche avéré, assure l'école, mais les capacités du logiciel impressionnent. Alors, Sciences Po réplique, ChatGPT pour les étudiants, c'est terminé. Des sociétés, d'ailleurs, travaillent déjà à la création de logiciels pour déceler l'utilisation de cette intelligence artificielle. Myriam Dubois-Moncachy, directrice de la formation initiale, compte sur cet outil pour parfaire l'arsenal anti-plagiat de Sciences Po.
Nous sommes dans une logique de prévention, même si on n'est pas à l'abri d'avoir des étudiants qui l'ont déjà utilisé. On utilise déjà un outil anti-plagiat à Sciences Po. Et quand on aura cet outil anti-plagiat pour ChatGPT 3, on le mettra en œuvre de la même manière.
Aucun des étudiants que j'ai rencontrés cet après-midi ne m'a avoué utiliser ChatGPT pour ses travaux scolaires. Comme Anaël, ils comprennent l'interdiction de l'utilisation du logiciel.
Ce serait cool qu'on puisse étudier les possibilités de cet outil. Il n'y a pas que du négatif, mais pour les travaux académiques, non, c'est logique, je trouve.
Et désormais, à Sciences Po, utiliser ChatGPT sera synonyme d'exclusion de l'établissement.
Voilà, au moins, c'est dit. Simon Bourtembourg.
Ouais, et on recevra Cédric Villani après ce journal. Cédric Villani qui avait rédigé en 2018 un rapport sur la question. Il est mon invité à 19h15. Pour l'heure, il est 19h09 sur Europe 1. Dans un instant, la démission de Bernard Laporte, de la présidente de la fédération de présidence de la fédération de rugby. Il était, il faut le dire, cerné de toutes parts. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. 19h11, la suite du journal d'Hélène Zeleny. On en vient au cas Bernard Laporte. C'est un grand nom du rugby, mais il a fini par jeter l'éponge.
Et oui, démission de la présidence de la fédération dont il était déjà en retrait, condamné pour corruption le mois dernier. Lui part, Axel May. En revanche, son équipe reste.
Oui, la ministre des Sports présente ce matin à la fédération française a obtenu le départ de Bernard Laporte, mais Amélie Oudéa-Castéra voulait davantage. Elle réclamait que l'ensemble du comité directeur démissionne pour que des élections générales soient organisées rapidement. statutairement, rien n'obligeait le comité directeur de la fédération à partir. Face à cette situation, les 9 membres de l'opposition ont claqué la porte, dénonçant un hold-up, un putsch, suivi cet après-midi par les 2 représentants du rugby professionnel, la Ligue nationale. Conséquence, ne reste plus dans les instances dirigeantes que les pros. Bernard Laporte, Alain Doucet est l'un des vice-présidents de la Fédération française de rugby.
Est-ce que tous les gens qui sont au comité directeur aujourd'hui sont voués coréables à Bernard Laporte ? C'est pas certain. Il y a des tas de mentalités, de différences, de subtilités. Nous ne sommes pas tous inféodés à Bernard Laporte. Après, il est certain que tous des tas de gens qui étaient proches de lui restent à la gouvernance de la FFR, c'est clair.
Alors la FFR, la Fédération française de rugby, bien sûr, un président intérimaire chargé de gérer les affaires courantes sera désigné dans une semaine. Puis cet été, lors de l'Assemblée générale de la Fédération, les clubs éliront un président issu du comité directeur, c'est-à-dire issu, vous l'aurez compris, du camp de Bernard Laporte. Les prochaines élections générales n'auront lieu que l'an prochain, après la Coupe du Monde.
Et on les suivra bien évidemment avec vous, Axel May.
Le sport sur le terrain avec le mondial de handball. Nous sommes à 2 heures du coup d'envoi de la demi-finale des Bleus face aux Suédois.
Rencontre qui se joue à Stockholm et donc en terre plutôt hostile pour l'équipe de France. Martin Lange, vous êtes déjà dans la salle et l'ambiance s'annonce brûlante.
Oui Hélène, pour l'instant vous entendez peut-être la musique derrière moi, mais dans des heures, pas sûr que la sono soit assez puissante. 22 000 personnes sont attendues ici à la Télé 2 Arena, on le rappelle, hein, c'est un stade de foot transformé en gymnase. Alors ils ne sont pas encore tous arrivés, mais les tribunes commencent à se garnir. Hein, et sans surprise, elles sont toutes jaunes et bleues, les couleurs de la Suède. Au foot, on a l'habitude de parler de 12e homme pour parler du public. Et bien ce soir, les handballeurs français auront face à eux un 8e homme avec ce public chaud bouillant. Ils devront résister à la pression populaire pour espérer prendre leur revanche. On le rappelle, lors des 2 dernières confrontations à ce stade de la compétition, ce sont les Suédois qui sont sortis vainqueurs. Alors jamais 203, les Bleus rêvent de faire mentir le dicton. Des Bleus qui espèrent aussi pouvoir compter sur Nikola Karabatic, la star incertaine à cause de douleurs aux pieds.
Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm, France-Suède à partir de 21h à suivre dans Europe 1 Sport, de même que le match avancé de Ligue 1, Lorient-Rennes.
Voici quelques titres, la grande vadrouille, le gendarme de Saint-Tropez, Rabbi Jacob, la foulée des grandeurs, Louis de Funès continue à faire rire des générations de jeunes et moins jeunes.
Louis de Funès qui nous a quittés il y a 40 ans, jour pour jour. L'acteur a vécu ses dernières années dans la commune du Cellier en Loire-Atlantique et les habitants rencontrés par Charles Guyard en sont particulièrement fiers.
C'est un bourg bien tranquille, ma foi, hein, avec des petits coteaux.
Petite commune entourée de vignes et surplombant la Loire, le Cellier n'est pas qu'un point sur la carte de France, c'est aussi et surtout l'ultime adresse de Louis de Funès. L'acteur y a résidé et il est enterré ici depuis 40 ans, un véritable honneur pour les habitants.
C'est clair, les gens ils en sont tellement fiers.
Franchement, c'est vrai qu'avoir un acteur comme ça, tout proche, c'est génial ça.
Ça fait une commune qui est renommée autour de Nantes.
Ça fait très peu de temps que je suis sur la commune et c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on m'a dites quand je suis arrivé.
Très fier de l'avoir eu parmi nous.
Vous l'avez toujours ?
Toujours, oui.
Une illustre présence qui oblige les Célariennes et Célariens à faire parfois office de guide touristique auprès de leurs proches.
Il y a des amis de Grenoble ou d'ailleurs, ils ne savaient pas.
Alors quand ils viennent nous voir, on leur fait visiter quand même, on leur fait voir le château. Et il y en a qui tiennent absolument à voir le cimetière.
Bah, c'est des incontournables, hein, voilà. Il faut bien le garder, le préserver, c'est important.
Et de nombreux visiteurs viennent régulièrement découvrir ce patrimoine jalousement conservé.
Il est chez nous.
Le Cellier, Charles Guyard, Europe 1.
Comme disait Louis de Funès, il est l'or, monseigneur. Place au marché financier avec Didier Hamot de boursier.com. Fin de semaine sous le signe de la stabilité.
Pas de folie des grandeurs, effectivement, en bourse. Le CAC 40 est stable.
Mais vous êtes ligué là ou quoi?
Ah, c'est pas mal quand même.
Bravo.
Ah, bah quand même. Juste sous,
non, je vous applaudis,
juste sous les 7100 points, donc stabilité du CAC 40, 7097 points. Les marchés restent dans l'attente des banques centrales qui se réuniront la semaine prochaine, à commencer par la Réserve fédérale américaine, puis la Banque centrale européenne qui devrait se montrer moins restrictive face à l'inflation. Dans cette perspective, peu de mouvements. En Europe, Francfort gagne 0,1%, Bruxelles est stable, Madrid plus 0,2% et le CAC 40 termine inchangé, donc 7097 points.
Merci Didier Hamot.
Merci à vous Hélène Zeleny pour le journal de 19h.